VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur VOA Afrique, voafrique.com. Eric Manirakiza et Lionel Runanilagahima en votre compagnie. Bienvenue à cette édition de ce mercredi 6 avril 2016, dont voici d'abord le sommaire.
Attentat terroriste au Niger, 2 civils tués.
Au moins 1634 exécutions des condamnés dans le monde en 2015, soit une hausse de 54% par rapport à 2014, constate Amnesty International.
Ebola n'est pas totalement éradiqué en Afrique de l'Ouest, encore un mort en Guinée.
La population de Brazzaville toujours préoccupée par la sécurité malgré le retour au calme.
Les autorités veulent nous obliger à vivre dans une psychose permanente. Donc nous sommes en insécurité pendant que nous prenons notre bière ici tranquillement.
Nguelan Gousou nous fera le compte-rendu.
Jacob Zuma est maintenu à son poste de président. L'opposition n'a pas reçu de soutien nécessaire pour le destituer.
Et ici aux États-Unis, c'est la course à la Maison-Blanche. Sanders et Cruz ont gagné le Wisconsin, le seul État qui a voté ce mardi.
L'élection en Wisconsin peut être un tournant.
L'ambassadeur Herman Cohen.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Niger, 2 civils ont été tués par 2 kamikazes qui se sont fait exploser mardi dans un véhicule de transport public près de Diffa, dans l'extrême sud-est du pays. John Lyndon.
Le véhicule transportait des passagers sur l'axe routier Diffa-Bosso, près du Nigeria. Selon un habitant de Diffa, une femme et un enfant et les 2 kamikazes ont été tués dans l'explosion. C'était le jour de marché à Diffa. Immédiatement après l'attaque, 2 avions ont survolé la ville, apparemment pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration de combattants islamistes. Le 30 mars, 6 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments de Boko Haram. Environ 2 semaines plus tôt, le 17 mars, 3 jours avant la présidentielle, un commandant de l'armée nigérienne a été tué par des kamikazes. Ces violences ont conduit à des déplacements de centaines de milliers de personnes dans la région. En plus de Boko Haram, le Niger déploie aussi un effort particulier pour contrôler le risque d'incursion des djihadistes venant du Mali.
En Guinée, Lionel, on parle d'une personne qui est morte dimanche suite au virus Ebola.
Bien sûr, cela porte à 8 le décès sur les cas, les 9 cas recensés depuis la réapparition de la maladie dans ce pays, Idriss Fall.
D'après Ibrahim Silla du centre de traitement Ebola à Nzérékoré, il y a 8 morts et sur 9 cas confirmés. La dernière victime est une dame qui est décédée dimanche. Plus de 1300 personnes susceptibles d'avoir été contaminées par des malades ont été vaccinées, dont 242 sont considérées à haut risque. 2 personnes qui ont fui Koropara sont activement recherchées. La Guinée avait été déclarée exempte à la fin décembre. Mais le 17 mars, de nouveaux cas ont été découverts près de la frontière avec le Libéria, où le virus Ebola a également refait surface. À Monrovia, les autorités ont annoncé que la femme décédée d'Ebola était venue de Guinée. Elle avait franchi la frontière avec ses 3 enfants, dont l'un a été testé positif puis hospitalisé. Et les 2 autres ont été placés en quarantaine.
Idriss Fall, le Parlement sud-africain a rejeté hier la motion de destitution du président Jacob Zuma déposée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. Le point avec Nanit Talani.
Jacob Zuma a survécu au vote. Le résultat du vote est le suivant. 143 voix en faveur de la destitution, 233 contre. La motion est donc rejetée, a indiqué le vice-président du Parlement, Leshisa Tsenoli, à l'issue d'un vote électronique des députés. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, l'ANC, qui soutient Jacob Zuma, a usé de son écrasante majorité au Parlement pour bloquer la destitution qui nécessitait 2/3 des voix pour être acceptée. La procédure avait été lancée par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, après le jugement historique la semaine dernière de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire du pays a jugé que le chef de l'État avait violé la Constitution en refusant de rembourser l'argent public utilisé pour rénover sa propriété privée d'un Kandla. En cause, une piscine, un centre pour visiteurs, un enclos pour bétail et un poulailler qui, selon la Cour, n'étaient pas liées à des travaux de sécurité. Le président Zuma s'était engagé à rembourser les frais contestés avant de faire porter à ses conseillers juridiques la responsabilité de son erreur.
L'administration américaine envisage de retirer du nord du Sinaï des soldats américains appartenant à une force de l'ONU pour les déplacer plus au sud de la péninsule en raison notamment de la menace du groupe État islamique, selon la télévision américaine CNN. L'Égypte fait face à une insurrection de groupes djihadistes armés dans le Sinaï depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi.
Toujours en Libye, Lionel, le gouvernement d'Union nationale a ordonné aujourd'hui à toutes les institutions d'utiliser son logo et d'obtenir son feu vert pour leurs dépenses, quelques heures après la décision des autorités non reconnues de Tripoli de lui céder le pouvoir.
Peine de mort dans le monde. Amnesty International révèle 1634 exécutions dans le monde en 2015. Les chiffres, les exécutions au plus haut depuis 1989. Mais ces chiffres n'englobent pas la Chine où ce type de statistique est classé secret d'État. En revanche, parmi les 11 premiers pays, l'on compte 3 sur le continent africain. Jean-Roger Billon.
C'est l'Égypte qui bat le record en Afrique avec plus de 538 exécutions, suivi du Nigeria avec 171, tandis que l'Algérie enregistre plus de 62, selon Amnesty International. Les exécutions de condamnés à mort ont bondi de plus de 50% dans le monde l'année dernière, atteignant leur plus haut niveau depuis 1989. S'alarme l'Organisation de défense des droits de l'homme. L'Iran, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont fait exécuter un nombre impressionnant de condamnés à mort à l'issue bien souvent de procès d'une iniquité flagrante. Mais malgré l'augmentation choquante des exécutions dans les 3 pays asiatiques, la tendance mondiale sur le long terme est à l'abolition de la peine de mort, souligne Amnesty dans son rapport de ce mercredi, rappelant que lorsque l'organisation a commencé à faire campagne contre la peine capitale en 1977, seuls 16 pays l'avaient abolie. Aujourd'hui, l'on compte 102 pays abolitionnistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde présidentiel américain, le sénateur du Vermont Bernie Sanders a remporté hier la primaire démocrate du Wisconsin face à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, tandis que le sénateur ultra-conservateur du Texas Ted Cruz, héros du Tea Party, a facilement battu le milliardaire Donald Trump. L'ambassadeur Herman Cohen décortique les messages de Sanders et de Cruz.
Sanders, j'ai vu son discours de gagnant juste maintenant et à la télé, et il était entouré de jeunes. Donc son message est pour ces gens-là, les jeunes qui disent il n'y a plus d'espoir de faire mieux que nos parents, parce qu'il y a les salaires qui sont toujours en baisse, il y a la concurrence des pays où le main-d'œuvre coûte moins cher, comme le Mexique, comme la Chine. Et je crois que nous sommes exploités par les gens très riches, par Wall Street. Nous allons casser le monopole des billionnaires aux États-Unis. Sur l'autre côté, le message de M. Cruz, qui est très à droite dans la politique, lui dit le gouvernement est trop grand. Il faut réduire le gouvernement. Il faut réduire les impôts. Il faut laisser l'argent dans les poches des contribuables. Ted Cruz, tout à fait à droite. M. Sanders, tout à fait à gauche. Il n'y a pas de centrisme dans cette élection.
Nous retrouverons l'ambassadeur Herman Cohen dans la seconde partie de cette édition.
Le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur du scandale de Panama Papers qui a éclaté dimanche, a affirmé mardi avoir été victime d'un piratage informatique opéré depuis des serveurs étrangers et avoir porté plainte à ce sujet. La déclaration de Ramon Fonseca Mora intervient 2 jours après la révélation par les journaux du monde entier du scandale d'évasion fiscale dit Panama Papers, basé sur quelques 11,5 millions de documents provenant des cabinets d'avocats panaméens Mossack Fonseca.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec Nathalie Barge.
Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'assigner l'État en justice fin avril pour non-paiement de factures d'une valeur de plus de 600 milliards de francs CFA selon Abidjan Net. Certains agents du Trésor public ou administrateurs de crédit ne seront pas épargnés, indiquait le président du syndicat Greffostin, prévoyant éventuellement de saisir l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, si la requête n'avait pas de suite en Côte d'Ivoire. Plus de 313 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés au secteur agricole au Cameroun l'an dernier, selon le ministère des Finances. Cette somme connaît une augmentation de 7,6% par rapport à l'année précédente. Toutefois, ces financements sont orientés vers les agro-industries et non vers les petits producteurs, bien que ces derniers représentent plus de 80% du secteur agricole. Faute de pouvoir donner les garanties exigées par les banques pour accéder au crédit, ils sont obligés de se retourner vers des établissements de microfinance. Le Burkina Faso lance jeudi une émission de bons de trésor d'une valeur de 40 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. L'opération de 5 ans est d'une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA et au taux d'intérêt de 6%. Le remboursement de ces obligations se fera par amortissement annuel constant après un différé de 3 ans.
C'était la Muniteco. Merci Nathalie. Votre actualité sportive ce matin avec Tatiana Mosso dans l'affaire des Panama Papers. Le douteux contrat signé par Gianni Infantino.
En effet, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est mis en cause par les Panama Papers pour avoir signé des contrats avec une société offshore pour céder des droits télévisés en dessous des prix du marché alors qu'il dirigeait le département juridique de l'UEFA. Un journal allemand de Munich qui a obtenu des Panama Papers avant d'entamer un vaste travail d'investigation avec une centaine de journalistes affirme qu'il a signé en 2006 et 2007 des contrats portant notamment sur des droits télévisés sur 3 saisons de Ligue des Champions avec des hommes d'affaires aujourd'hui poursuivi par la justice américaine dans le scandale de corruption qui secoue la FIFA.
Jeux olympiques 2016, la flamme olympique sera allumée le 21 avril à Olympie.
Elle sera allumée dans la cité antique d'Olympie en Grèce, c'est ce qu'ont annoncé les autorités grecques. Elle partira ensuite pour un relais qui lui fera faire le tour du pays. La flamme sera enfin remise aux autorités olympiques brésiliennes le 27 avril lors d'une cérémonie au stade panathéanique d'Athènes, où se sont déroulés les premiers JO de l'ère moderne en 1896, ont annoncé le président du comité olympique grec Spyros Kapralos et le président de la commission chargée du relais de la flamme olympique, Giannis Karas.
Football, Tatiana, les quarts de finale aller de ce mardi soir en Champions League. La victoire du Barça contre Atlético de Madrid, 2-1. Et le Bayern de Munich qui a battu Benfica Lisbonne 1-0. Les matchs retour dans 8 jours s'annoncent donc ouverts. Et Tatiana, il y a d'autres matchs à suivre cette semaine du côté européen.
Le Paris Saint-Germain joue un quart de finale de Ligue des Champions à sa portée mercredi face à Manchester City, nouveau riche comme lui aux mains d'investisseurs du golf qui rêvent aussi d'atteindre pour la première fois le dernier carré. L'autre quart de finale aller opposera le Wolfsburg au Real Madrid.
Et cette dernière nouvelle de l'agence antidopage britannique, Tatiana.
Exactement, l'UCAD a confié à un ancien policier la direction d'une commission d'enquête indépendante après les allégations de dopage visant 150 sportifs de haut niveau. L'hebdomadaire Sunday Times avait affirmé dimanche qu'au cours des 6 dernières années, un médecin londonien, Mark Bonnard, a traité plus de 150 sportifs britanniques et étrangers avec des substances interdites telles que l'EPO, les stéroïdes et de l'hormone de croissance. Et avec vous, Eric, les résultats du championnat nord-américain de basketball.
Oui, Tatiana, la Nouvelle-Orléans a perdu face à Philadelphie 93-107. Charlotte a perdu contre Toronto 90-96. Detroit a perdu face à Miami 89-107. Atlanta a gagné contre Phoenix 103-90. Memphis a gagné contre Chicago 108-92. Et Milwaukee a perdu face à Cleveland 80-109. San Antonio a battu Utah 88-86. Portland a battu Sacramento 115-107. Golden State s'est incliné devant Minnesota 117-124, mais après prolongation. Enfin, Los Angeles Clippers a gagné contre Los Angeles Lakers 103-81.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Oh, bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. À Brazzaville, dans la capitale congolaise, la population regagne progressivement leur ménage après les attaques de ce lundi au sud de Brazzaville, attribuées aux ninjas. Selon le bilan donné par le gouvernement, 17 personnes, dont 3 policiers, 12 assaillants et 2 civils, ont trouvé la mort pendant les violences. Par ailleurs, les autorités affirment détenir des preuves accablantes contre le pasteur Ntumi, ancien chef ninja, comme principal auteur de cette attaque. Nguela Ngoussou a les détails.
Les populations ont commencé à regagner leurs maisons qu'elles ont précipitamment quittées lundi à la suite des affrontements armés dans les quartiers sud. La circulation a repris, les commerces et quelques marchés à Bouro, à Madibou et très timidement à Total, l'un des plus grands de la capitale congolaise. À plus de 70 ans, Joseph ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé à Makelele.
Moi, je suis parti de chez moi, de Makelele, à pied, hein, jusqu'à Mungali, là-bas, dans le Tassi. J'ai passé la nuit là-bas, je n'ai même pas bien dormi. Là, j'ai même sommeil. Voyez-vous? Mais tout ce qui se passe, là, regarde, on a même brûlé les archives de la mairie. Même la maison commune, elle est brûlée. Oh, dis donc, mais comment? On veut rester sans archives? C'est pas normal, ça.
Autour d'une bière, au quartier Matour, Alfred, sur son tricycle, voit plutôt un jeu du gouvernement dans cette attaque attribuée aux ninjas.
C'est une façon d'attaquer le stress et de faire avec la réalité. Parce que les autorités veulent nous obliger à vivre dans une psychose permanente. Donc nous sommes en insécurité pendant que nous prenons notre bière ici tranquillement. Au Congo, quand on parle de sécurité, souvent on pense aux ninjas. Alors, comme ils devraient publier la validation de la candidature du chef de l'État, donc il a fallu créer une situation qui allait désorienter l'attention des Congolais. Pendant qu'ils allaient penser à l'insécurité, ils publient les résultats de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de contestation parce que les gens sont obligés d'abord de penser à se mettre en sécurité, tout un tas de choses. Donc c'est ce que nous considérons parce qu'il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu confrontation entre ces prétendus ninjas et les éléments de la force publique.
Une passante, baluchant sur la tête et traînant un enfant d'environ 4 ans, lance tout simplement ceci.
Franchement, on est fatigué. S'il veut continuer pour l'éternité, il n'a qu'à rester là. Mais qu'il nous colle la paix, la partie sud. Il n'y a pas deux pays. C'est réellement, il est le père de la nation. Mais il doit nous laisser en paix. Pourquoi seulement la partie sud? Ça, c'est un scénario qu'il a monté. Hein? C'est pas normal. Mais je suis revenu à la maison. J'ai marché à pied jusqu'ici.
Malgré le calme revenu, policiers et militaires lourdement armés restent déployés dans les quartiers sud de la capitale congolaise. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Mali, 4 ministres, des députés accompagnés d'une forte délégation ont bouclé une visite de 6 jours dans l'Omopti. Raison essentielle, écouter de vive voix les préoccupations des populations pour trouver des solutions appropriées. Notre correspondant Mamoudou Bokoum nous fait le point.
Ils sont au nombre de 4 ministres et 4 parlementaires à effectuer une visite de terrain dans la région de Mopti. Objectif, écouter directement les préoccupations des populations. C'est une initiative du collectif des députés élus dans la région de Mopti. D'entrée de jeu, le gouverneur dresse la situation d'insécurité que vit la région avec un bilan triste. Comment Kané?
45 morts, 30 blessés, 7 cas d'enlèvement de 11 motos, 8 téléphones et 2 716 500 francs CFA emportés. 8 boutiques cassées au cours de 23 attaques et 19 braquages en 2015.
Face à cette situation, les populations ont évoqué une batterie d'inquiétudes et de préoccupations.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, Mopti est laissée à elle-même. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons partout l'insécurité, des attaques et des assassinats ciblés qu'il faut vraiment vaille éradiquer. Nous constatons vraiment l'absence de l'État et quand l'État est absent, les djihadistes avec les moyens conséquents qu'ils ont, ils vont occuper le terrain, ils vont nourrir nos populations, ils vont les financer.
En plus des préoccupations, la société civile mopticienne a également fait des propositions de solutions.
Doter rapidement le gouverneur de Mopti d'une caisse noire pour faire face aux renseignements. Les renseignements sont négligés
et aux autres de citoyens lambda à même peur de dénoncer les djihadistes pour ne pas être les prochaines proies. Collaborer avec tous les leaders religieux, les chefs de village, les chefs de hameaux et mettre en place des brigades de vigilance. Doter nos forces de l'ordre de moyens conséquents de mobilité. Autonomiser les marabouts avec leurs talibés pour éviter de servir les terroristes de terreaux de recrutement. Que Mopti soit doté d'un pôle judiciaire antiterroriste.
En réaction, le ministre de la Réconciliation nationale rassure les Mopticiens. Pour Zahabi Sidi Ould Mohamed, ses préoccupations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd.
Je remercie très sincèrement ceux qui ont donné de très bonnes propositions que nous avions notées. Et je vous garantis que la mission, elle fera un rapport détaillé au Premier ministre qu'on va aussi transmettre à l'Assemblée par rapport à toutes les questions qui ont été posées avec des propositions et on va renvoyer une copie au gouverneur ici pour le suivre.
La délégation ministérielle et parlementaire s'est rendue dans l'ensemble des 8 cercles que compte la région. Mais il faut noter que pour aller dans les cercles de Tenenku, Yoru et Douanza, les membres du gouvernement ont emprunté un hélicoptère, ce qui témoigne de l'insécurité qui sévit dans le delta intérieur du Niger et de l'état défectueux de la route Sévaré-Douanza. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'ONG congolaise Justicia SPL a adressé une lettre ouverte au ministre de la Défense concernant la militarisation récente de la province du Katanga à l'approche des élections. Nathalie Barge a joint Timothée Mbouya, président de Justicia SPL à Lubumbashi.
Depuis le vendredi passé, nous avons constaté effectivement qu'il y a une très forte présence militaire dans la ville et les populations sont très, très inquiètes. Une soixantaine de chars d'assaut sont arrivés donc à Lubumbashi et selon les informations que nous disposons, que les chars sont restés à Kalimant et quelques autres vont devoir arriver à Kalemi et à Kolesi. Plus ou moins, des commandos sont aussi arrivés. Certains sont restés à Kalimant et d'autres vont être déployés dans les villes que je venais de citer tantôt. Ça fait que l'activité économique et les déplacements de la population sont plus ou moins réduits. Mais la nuit, les gens sont malheureusement obligés de rentrer à la maison un peu plus tôt parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer et pourquoi toutes ces manœuvres militaires.
Alors justement, est-ce que l'on vous a donné une explication sur cette présence militaire officiellement?
Je crois que nous avons constaté cette présence militaire dans notre région. Aucune autorité locale n'a daigné donner une quelconque explication. Nous avons appris par la voix des hommes hier, un ministre s'est prononcé là-dessus. Il a dit que c'était dans le cadre normal de renforcement des capacités de l'armée. Nous le faisons bien, mais selon l'information que nous venons de recevoir aujourd'hui, ces armes lourdes sont entreposées dans le camp de la garde républicaine. Nous aurions voulu que ces armes soient gérées par les FRDC. Par exemple, la population s'inquiète juste et juste parce que nous approchons de la période électorale. C'est pour la question de savoir pourquoi seulement le Katanga et pourquoi seulement maintenant, pourquoi ces chars d'assaut sillonnent les grandes avenues de la ville de Lubumbashi particulièrement aux heures du soir.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait éventuellement un rapport avec le fait que Moïse Katumbi se soit présenté candidat?
Nous avons raison de le croire. Et d'ailleurs, dans notre lettre ouverte, nous avons dit au ministre que nous serions contents de savoir que ces armes ne seront pas utilisées sur une population civile qui revendiquerait l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, il est vrai que depuis que Moïse a démissionné, depuis qu'il a rejoint le rang de l'opposition, il commence à passer le mouvement des choses dans la province et peut-être que tout ce qui se passe a un lien direct avec le fait que lui et M. Moïse se soient retirés de la majorité présidentielle.
Maître Timothée Mbouya Lubumbashi en RDC.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Retour sur la présidentielle américaine. Ce mardi, c'était le tour de l'État du Wisconsin pour départager les candidats républicains et démocrates en lice dans la conquête de la Maison-Blanche. Sans surprise, les sondages qui donnaient l'avantage au sénateur du Texas, Ted Cruz, Côté républicain, Bernie Sanders et les démocrates se sont confirmés pour l'analyse de ces résultats. Nous avons joint ici à Washington l'ambassadeur Herman Cohen, ancien membre du Parti républicain.
C'était une élection très importante parce que jusque maintenant, M. Trump pour les républicains et le sénateur Mme Clinton était en train de gagner pas loin. Et tout à coup, on arrive à Wisconsin et les candidats qui étaient numéro 2 ont gagné. Donc, on ne peut pas dire que les deux candidats, Trump et Clinton, sont en difficulté, mais nous commençons à croire que peut-être ils peuvent perdre. Donc, l'élection en Wisconsin, ça peut être un tournant dans la campagne.
Un tournant, c'est le seul État qui a voté ce mardi. Est-ce qu'il constitue un enjeu majeur dans la suite des primaires, comme vous dites qu'il s'agit d'un tournant?
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc, on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
Est-ce que l'idée conservatrice radicale est en train de perdre du terrain aux États-Unis?
À mon avis, c'est oui. À mon avis. Et je parle moi-même comme quelqu'un de plus âgé qui était républicain dans le temps. Mais je crois que les conservateurs sont en train de disparaître lentement parce que ce sont des gens plus âgés. Tandis que les gens de gauche, les démocrates, sont plus jeunes, sont des universitaires, des professionnels, des gens dans l'industrie de technologie. Ce sont ces gens-là qui ont l'avenir devant eux, qui votent démocrates. Et donc je crois que les démocrates doivent gagner.
Ce lundi, la Cour suprême a maintenu les règles de découpage électoral aux États-Unis, un échec des républicains.
Ils ont peur qu'ils vont perdre cette année parce qu'ils ont déjà perdu les votes des deux grandes minorités aux États-Unis. Ça, c'est les hispanophones et les afro-américains. Ils ont déjà perdu les votes. Donc, l'afro-américain, ça représente 12% de la population. Et les hispanophones représentent 15%. Donc, déjà, vous avez 27% de la population qui vont sûrement voter démocrate.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'était un morceau Heartbeat de Carrie Underwood. Ainsi va le monde aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Runaniragahima. La mise en onde était assurée par John Ellison. Eric Manirakis à la présentation. Excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Plus d'un million de fonds déjà. L'actualité en Afrique et ailleurs sur notre site internet voaafrique.com. Au revoir.